Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité de la Tribune de l'Art avec un invité directeur de château-musée, Rodolphe Rapetti, qui est le directeur du château de Compiègne depuis maintenant 5 ans, 6 ans
6 ans.
6 ans.
Et de Blérancourt également.
Et de Blérancourt également, n'oublions pas le château de Blérancourt effectivement. Donc nous allons parler de sa carrière avant d'arriver au château de Compiègne et à Blérancourt. Et je dois dire que je suis ravi de faire cette émission parce que je me suis rendu il n'y a pas très longtemps à Compiègne et j'étais un peu inquiet, je n'avais pas beaucoup de nouvelles de Compiègne, j'avais l'impression qu'on n'allait voir que des voitures et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Effectivement, on a un directeur qui s'occupe de tout et qui va dans toutes les directions, mais les bonnes directions qui sont des acquisitions, des restaurations, des expositions, pas seulement de voitures, donc des œuvres d'art. Il sort les œuvres d'art des collections et ça m'a... Le travail fait m'a vraiment impressionné. C'est pour ça que j'ai commencé une série où il y a déjà deux articles plus un article sur l'exposition sur laquelle nous reviendrons Prosper Mérimée et qu'il y en aura probablement d'autres et que j'ai tenu à le recevoir aujourd'hui. Rodolphe Rapetti, donc racontez-nous votre carrière depuis que vous êtes rentré, que vous êtes devenu conservateur. Et d'abord, pourquoi être devenu conservateur ?
Alors, c'est une question de... C'est une question de vocation. Enfin, je veux dire, c'est banal de dire ça. Mais... Après avoir fait des études de droit, je me destinais à la carrière de commissaire-priseur. Parce que j'ai toujours été avec mes parents dans les musées, j'ai toujours chiné chez les antiquaires avec mes parents. Et l'un de mes professeurs d'histoire de l'art, Philippe Borde, m'a dit que très vite je m'ennuierais dans le métier de commissaire-priseur et qu'en fait il fallait que je fasse de l'histoire de l'art. C'était quand j'étais à la faculté de Montpellier, en histoire de l'art donc. Et puis, à partir de là, il y avait deux choses possibles, soit l'enseignement, soit les musées. Et j'ai choisi les musées parce que le rapport avec les œuvres était beaucoup plus direct. Voilà.
Vous avez fait l'université, pas l'école du Louvre ?
J'ai fait l'école du Louvre uniquement en dernière partie, la préparation au concours de conservateur. Mais j'ai fait effectivement, donc j'ai d'abord fait du droit à la faculté de droit de Montpellier, puis histoire de l'art à Montpellier à l'université Paul Valéry, où j'ai eu comme professeur notamment donc Laure Pélissère, Jacques Bousquet, l'inventeur des statues d'animés, et Philippe Borde, puis Bruno Foucard à Nanterre. Et puis j'ai passé le concours à l'instigation de son frère, de Jacques Foucard.
Et donc votre premier poste a été où, une fois que vous avez eu le concours ?
Alors déjà à l'époque, donc je suis quelqu'un d'ancien, à l'époque l'INP n'existait pas. Et donc on faisait des stages. Donc j'ai commencé par un stage au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Donc en fait, Hubert Landais nous recevait, a reçu toute la promotion.
L'ancien directeur des musées de France.
C'est le directeur des musées de France. Il a dit, voilà, monsieur Untel, vous irez là, madame Untel, vous irez là, et monsieur Rapetti, vous irez à Bordeaux. Donc j'ai commencé par faire un stage avec Philippe Le Lézour au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Philippe Le Lézour, jeune et brillant conservateur, qui avait pris son poste il y a peu de temps, et qui m'avait confié d'ailleurs quelque chose. C'était quelque chose d'assez étrange parce qu'à l'époque ça me plaisait pas tellement, mais finalement c'était une preuve de confiance. Il m'avait confié pour ce premier stage la rédaction du guide du visiteur du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ensuite j'ai été en stage au Musée d'Orsay, puis au cabinet des dessins du Louvre. À l'époque, on ne disait pas département des arts graphiques, avec Roselyne Bacou.
Je dis toujours cabinet des dessins, c'est quand même
plus
joli.
Moi aussi, c'est quand même beaucoup plus... Ça définit d'ailleurs, je trouve, beaucoup mieux la chose. Et puis, au musée d'Orsay d'abord, puis au cabinet des dessins, et puis ensuite, mon premier poste a été le musée d'Orsay.
Voilà. Vous étiez responsable de quelle collection ?
Alors, je m'occupais des dessins et des peintures des écoles étrangères.
Vous étiez avec Françoise Cachin à l'époque ?
Oui, j'étais avec Françoise Cachin. J'ai été le plus jeune. Enfin, j'étais un peu nouveau venu dans une équipe qui était déjà... Il y avait Georges Vigne qui était mais un peu plus âgé que moi quand même. Mais c'était une équipe qui avait travaillé ensemble depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. Et j'ai été l'élément étranger et jeune, et qui plus est méridional. Je suis né à Avignon et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Arles.
D'accord.
Voilà. Donc, je suis resté à peu près 10 ans à Orsay.
Et ensuite ?
Alors ensuite, le poste des musées de directeur des musées de Strasbourg s'est libéré. J'ai donc été directeur des musées de Strasbourg pendant 5 ans. Le temps de construire le musée d'art moderne et contemporain, c'est à l'époque où Catherine Trottmann est devenue, qui était maire de Strasbourg, est devenue ministre de la Culture. Puis j'ai été ensuite, je suis revenu en centrale au ministère, où j'ai créé avec Françoise Cachin le FRAME, le groupement de musées franco-américains. J'ai été ensuite je ne sais plus dans quel ordre, directeur adjoint du musée de France avec Francine Marigny Ducré, puis Marie-Christine Labourdette. J'ai été 3 ans chercheur associé à l'INHA. Je suis à nouveau revenu en centrale et puis me voici donc à Compiègne.
Donc vous avez été à la fois dans les musées nationaux, dans les musées de province, en centrale, donc vous avez une expérience assez complète qui vous permet d'avoir une bonne appréhension
complète
de ce monde des musées.
Oui, oui. Et là, c'était pas du tout une recherche. C'est disons le hasard et l'intérêt des postes qui se libéraient qui a fait ça.
Et je me dis que pour le poste que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important d'avoir cette bonne vision parce que ça ne doit pas être facile d'être directeur d'un château-musée. Alors c'est peut-être la première question que je voulais aborder. Donc on viendra sur toute la politique que vous avez mise en œuvre à Compiègne, mais vous êtes directeur d'un musée, donc on parlera acquisition, exposition, mais vous êtes également directeur d'un château. Ça veut dire qu'il y a une enveloppe architecturale, une histoire qu'il faut respecter, et qui parfois, je le crains parfois, ce sont deux choses antinomiques. Or, ça devrait aller dans le même sens. Comment est-ce que vous appréhendez cette question ?
Alors, je l'appréhende avec d'abord un regard historique sur ce qu'est le château de Compiègne, y compris dans son histoire relativement récente. Le château-musée a plusieurs particularités. En l'occurrence, en ce qui concerne Compiègne en tout cas, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de salle d'exposition, par exemple. Alors que maintenant, tous les musées, y compris les musées de province, se sont dotés, bien sûr, de salles d'exposition. Donc quand on doit créer une exposition, on la loge dans les appartements historiques. Mais de cette contrainte, j'essaye de faire une force. C'est-à-dire, par exemple, présenter des voitures, et des voitures du XXe siècle, des concept cars, des espèces de...
On y viendra.
Voilà. Dans un château, c'est évidemment une contrainte énorme. Mais la confrontation entre ces architectures roulantes et l'architecture qui les abrite, c'est une force aussi sur le plan esthétique. La même chose pour Mérimée.
C'est-à-dire que également cette belle exposition que j'avais beaucoup appréciée. Qui se termine.
Elle est terminée.
Voilà, qui se termine malheureusement. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu ont eu tort.
Voilà. Écoutez, tant pis pour eux. C'est la même chose. Il faut loger l'exposition avec là une grande diversité d'objets, lettres, estampes, manuscrits, etc. Dans les appartements. Donc, ça suppose une muséographie adaptée. Alors, quand je parlais du regard historique, il y a évidemment toute la question de l'enveloppe, toute la question de cette magnifique architecture de Gabriel. Rappelons quand même que le château de Compiègne est commandé par Louis XV à son premier architecte pour être le plus grand et le plus beau château de chasse d'Europe, ce qu'il est, je pense, à cette époque. Et évidemment, il y a tout l'aspect, employons le barbarisme actuel, bâtimentaire de ce château, c'est-à-dire ne serait-ce qu'un entretien qui évidemment n'est pas du tout pareil que dans un musée, disons, classique. Les rapports, évidemment, avec l'architecte des bâtiments de France, l'architecte en chef des monuments historiques, qui font que là, c'est un travail d'équipe. Mais il y a aussi l'histoire récente. Compiègne fait partie des résidences royales puis impériales qui, au moment de la Troisième République, se sont trouvées en quelque sorte progressivement sans objet, puisque il n'y avait plus de vie de cour. Alors bien sûr, Félix Faure est un peu venu chasser de temps en temps à Compiègne. On y a reçu le tsar, mais en fait, c'était pas du tout la même chose que sous le Second Empire, à l'époque des séries. Donc, et c'est un acte, sans doute l'acte le plus important concernant les musées entre les deux guerres, on a décidé de créer C'est la même chose pour Saint-Germain-en-Laye, par exemple, enfin, qui était déjà musée archéologique depuis un certain temps. Mais on a créé des musées à l'intérieur de ces châteaux. Et à Compiègne, on a d'abord créé le musée de la voiture, puis le musée du Second Empire dans la foulée. Et enfin, en 1954, le musée de l'impératrice. Donc en fait, dans ma vision, ces trois musées font partie intégrante de l'histoire du château. Et certains peuvent dire qu'au fond, Compiègne, c'est un patchwork, qui a toutes sortes de choses, on n'y comprend rien. Moi, je trouve qu'au contraire, cette histoire doit être respectée et que cette diversité de l'offre que l'on fait au public fait partie de l'histoire du château. Donc, lorsque je suis arrivé, j'ai proposé un projet de rénovation totale du musée de la voiture en gardant le maximum dans ce projet des aménagements d'origine. Parce que, pour moi, une verrière art déco créée en 1934, elle est magnifique et elle fait partie de l'histoire, même si c'est une verrière qui couvre une cour du XVIIIe siècle. Donc voilà un peu comment je tente, si vous voulez, de mener de front un peu tous les aspects de la diversité de cet établissement.
Alors on reviendra sur plusieurs des points que vous avez abordés. Donc si je comprends bien, effectivement, il y a trois musées qui ont leur autonomie, mais leur caractère propre, et il y a tout le reste, les appartements. La chapelle.
Bien sûr.
Et ça demande un entretien, une restauration. Ça demande également des collections, puisque ce sont les collections. Alors, dites-nous un petit mot sur le remeublement. Quelle est la politique de remeublement ou de meublement, et quels sont les meubles que vous conservez à Compiègne? Et ensuite, quelles sont les restaurations? Je me rappelle avoir vu une salle où il y a des étais, donc il y a des besoins de restauration importants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects-là?
D'accord. Alors, on commencera par les restaurations. Donc, vous avez vu les étés dans le Salon des Fleurs, puisque je me suis aperçu, il y a maintenant 2 ans, que le plafond s'affaisse et que donc les décors peints de redouter sont menacés. Donc, nous l'avons sécurisé et nous avons également en cours, juste à côté, la bibliothèque de l'Empereur. Donc, ça, c'était un chantier qui était... qui était en attente depuis 7 ans. Donc j'ai pu trouver les crédits et le débloquer, puisque c'est un crédit de 2,8 millions, hein, pour restaurer la bibliothèque de l'Empereur, avec le même problème, sauf que là, c'est un plafond de Girodet qui était menacé. Donc là, le chantier de restauration est en cours. C'est un très bon exemple, parce qu'en fait, c'est lié à la structure du bâtiment. Dans la conception de Gabriel, il y a des portées de poutres sur toutes les pièces des appartements qui donnent sur le parc de plus de 10 mètres. Donc elles étaient déjà, les poutres étaient relativement sous-dimensionnées. Or, qu'est-ce qui s'est passé sous le Second Empire pour les séries?
Rappelez-nous ce qu'étaient les séries. Alors, parce que je suis un amateur de séries, mais je pense que ce ne sont pas les mêmes.
Alors, les séries, ce sont... vous savez que Napoléon III et Eugénie ont instauré une nouvelle pratique de la vie de cour, qui est en fait une ouverture de la vie de cour sur la société civile. Et donc, à l'automne, par série d'une semaine successive, on invitait une centaine de personnes, et même parfois une centaine de couples, à passer une semaine à Compiègne. C'est ainsi que Mérimée, par exemple, y a séjourné très souvent. Et donc, on a construit, à l'étage supérieur, au-dessus des grands appartements, on a construit une centaine de chambres d'hôtel ou de suites. Mais ces cloisons sont venues souvent, d'ailleurs, perpendiculairement, se peser sur tout le système de poutraison des grands appartements. Donc on a déjà des poutres très longues et une surcharge par la construction de ces petits appartements. Donc même problème. Alors ça, c'est des restaurations qui sont en cours. La deuxième chose, c'était la question du remeublement.
Alors juste avant de passer au remeublement, donc j'avais visité du temps de votre prédécesseur, Emmanuel Starkey, une partie de ces petits appartements où Napoléon III logeait ses invités, où je crois qu'il y a même une bibliothèque, si je ne me trompe pas.
La bibliothèque des invités.
La bibliothèque des invités, effectivement. Ça mériterait aussi à terme une restauration. Est-ce que c'est quelque chose qui sera envisagé plus tard? Parce que d'abord, c'est intéressant et puis ça donne de la place supplémentaire éventuellement pour exposer d'autres choses.
Bien sûr. Alors, un appartement d'invité complet, un des plus complets, a été restauré par Emmanuel Starkey déjà. Et donc, il est visitable, mais évidemment, nous n'avons pas suffisamment d'effectifs, donc il est visitable uniquement en groupe, sur visite guidée et sur réservation. La bibliothèque des invités, pour le moment, je n'ai pas encore entamé les restaurations. Elle est très spectaculaire parce qu'il y a cet ameublement de Ruprecht Robert qui est vraiment bon, assez lourd, assez massif. Hein. Ce sont des meubles d'architecte faits pour la bibliothèque. Et il y a une politique qui est en cours, mais qui est assez compliquée, assez longue, de récupération des ouvrages
Ce que
qui
m'avait
se
dit effectivement
trouvaient
Emmanuel Starkey à l'époque.
dans la bibliothèque des invités. Donc là, nous en avons récupéré quelques centaines, mais c'est sur le long terme. Et effectivement, il est aussi question que nous la restaurions.
Et ils étaient où ces livres, rappelez-moi, dans la bibliothèque municipale, je crois, ou...
Alors, ils sont un peu éparpillés partout. Il y en a qui sont à la bibliothèque municipale de Compiègne, il y en a d'autres qui sont à la bibliothèque nationale. Et peut-être certains à l'Arsenal, enfin, de toute façon, c'est la Bibliothèque nationale.
Donc voilà, donc très bien. Effectivement,
Voilà.
ça c'est parce que c'est vrai que ça m'avait impressionné cette visite. Nous avons effectivement la bibliothèque mais qui pour le moment vide, dont on voit qu'elle a besoin de travaux.
Elle n'est pas en très mauvais état, en fait.
Non,
Il y
mais
a le plafond qui est à reprendre, mais surtout le problème de la Bibliothèque des invités, on y a installé un problème, c'est les différences de température. Vous savez, Mérimée disait déjà, l'hiver à Compiègne, tantôt l'on y grille et tantôt l'on y gèle. Et en fait, c'est cet ambitus de température qui est très très grand. Et donc, on a installé un système pour la chauffer, déjà, donc pour éviter ces différences de température. Mais sinon, c'est plutôt une restauration cosmétique dont elle a besoin. Il n'y a pas enfin, à partir du moment où on ne veut pas la climatiser, il n'y a pas de gros problème.
on peut passer à l'ameublement. Il y a beaucoup de meubles à Versailles. À Versailles, pardon, excusez-moi. Lapsus que je pense ne
Il y
doit
en a
pas
beaucoup,
vous,
il y en a
ne
beaucoup
doit pas
chez
vous
nous aussi.
plaire.
Il y en a beaucoup chez nous aussi.
Parce que c'est vrai que j'ai vu comprendre même de tout temps, il y a des meubles à Versailles qui sont des meubles qui, je crois, étaient à Compiègne, si je ne me trompe pas, et
Alors,
que vous aimeriez. Je crois qu'il y a des dépôts de Versailles un petit peu.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu par le passé, des dépôts croisés un peu partout, des meubles qui ont été, des meubles qui ont la marque Compiègne, mais qui se trouvent à Versailles parce qu'historiquement ils ont été aussi et plus tard ou avant à Versailles. Il y a la même chose avec,
Fontainebleau, peut-être.
c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un jeu de chassé-croisé de mobilier entre le mobilier national, Compiègne, Versailles, Fontainebleau, le Louvre. Et le mobilier national avait vocation à déposer des meubles, y compris dans les ambassades. Donc on a une espèce comme ça, de diaspora du mobilier qui est quelque chose d'assez impressionnant, en fait. Bon, à partir, comme vous le savez, disons, l'après-Deuxième Guerre mondiale, a été élaboré, à Compiègne d'ailleurs, par Jean Vernier Ruiz, puis Jean-Marie Moulin, la théorie des États historiques. C'est d'après cette théorie des États historiques que Compiègne a été remeublée, et c'est cette théorie que nous continuons d'appliquer. Alors je fais un petit rappel de quoi est-ce qu'il s'agit. Ces châteaux étaient à partir justement de la Troisième République, ont été, ils étaient ouverts au public. Ce qu'on y voyait, c'était un empilement des strates successives d'ameublement qui n'avaient aucune cohérence. Jean Vernier Ruiz a décidé d'expérimenter à Compiègne les états historiques, c'est-à-dire au fond de mettre au net, de remeubler d'abord, d'essayer de remeubler, de ramener au maximum les meubles d'origine. Au château de Compiègne. Mais ensuite, quand on avait les meubles d'origine, ah, très bien, mais quel est l'aménagement, tout ce qui est immeuble par destination, quel est le décor? Les moulures, les luminaires. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait faire un choix, c'est-à-dire quel est l'état que l'on reconstitue? Est-ce qu'on reconstitue un état 18e? il y a très peu de choses, puisqu'en fait, sous Louis XV, c'était inachevé. Louis XVI va compléter le décor, mais ne l'achève pas. Napoléon Ier l'achève pratiquement. Napoléon III le modifie. Avec à chaque fois, évidemment, des commandes de meubles, de mobilier et l'installation de mobilier nouveau. Donc, quel état choisir? Eh bien, tout simplement, en fonction des meubles dont on dispose, on va choisir de restituer tel ou tel état. C'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui.
Même si les meubles ne correspondent pas au décor ou sont...
Alors, les meubles, on décide de restituer un état, mais par exemple, pour la salle des gardes à Compiègne, la salle des gardes était entièrement dans l'état Napoléon III. L'état Napoléon III a été mis en réserve et Jean-Marie Moulin a pris la décision de restituer l'état Louis XVI. Ce qui a conduit quand même à la destruction de deux poêles en faïence Napoléon III pour reconstruire les deux cheminées qui se trouvent dans la salle des gardes d'après les dessins de l'époque Louis XVI.
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de choses.
Mais moi, je pense qu'on ne le ferait plus aujourd'hui.
Voilà,
Dire les choses, pour dire, ne pas porter de jugement. Voilà. Bon. mais voilà, parce qu'en fait, il faut aussi cette volonté d'objectivité des états historiques. On est toujours de l'époque à laquelle on vit. Cette volonté d'objectivité, ça se situe à une époque où l'on méprise le style Napoléon III. Moi, mes parents m'ont appris que le style Napoléon III, ce n'était pas intéressant.
On était l'élève de Bruno Foucart, et Foucart est un de ceux qui a réhabilité le XIXe siècle, dont le
style Napoléon III. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça s'est passé à une époque où on avait tendance à plutôt préférer quand même le style, le XVIIIe, bien sûr, et le style Empire. Bon, donc, on continue. Donc, nous sommes à l'affût. Lorsqu'il passe en vente du mobilier, par exemple, nous avons pu acquérir il y a 3 ans l'unique chaise survivante de la salle à manger commandée par Louis XV pour Compiègne. Salle à manger qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle n'était pas à l'emplacement de l'actuelle salle à manger de l'empereur. Donc vous voyez, c'est très compliqué parce qu'on a des strates successives qu'il faut... Et le plus dur, c'est d'arriver, au fond, à rendre ça lisible pour le public.
Mais donc, vous n'avez pas tout à fait la même politique que Versailles qui hésite à acquérir un meuble qu'ils ne peuvent pas replacer à son emplacement d'origine. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'acheter pour Compiègne une chaise qui appartenait à Compiègne parce que finalement, Compiègne, on l'a dit, aussi un musée et ça fait partie de son histoire. Mais c'est plus compliqué, effectivement, pour le remeublement.
Alors, ça pose plusieurs problèmes. Par exemple, cette chaise, nous l'avons acquise parce qu'elle est aussi un témoignage extraordinaire du style rococo. Actuellement, on a trouvé un endroit où la présenter, puisqu'elle ne trouve sa place nulle part, mais nous avons la galerie des tapisseries des chasses de Louis XV, donc on a trouvé, évidemment, elle va très bien à cet endroit-là. Cette problématique... elle peut nous conduire effectivement à acheter beaucoup de meubles qui vont demeurer en réserve. Et c'est là que le problème est délicat, c'est-à-dire qu'il faut acheter, quand évidemment on est en face d'un meuble qui correspond à qui a une importance historique, il faut l'acheter. Le problème, c'est effectivement quand vous allez acheter un meuble pour faire plaisir aux conservateurs et quelques historiens d'art et que le public ne le voit pas. Et donc... nous allons, cette année ou l'année prochaine, rouvrir quelques salles qui avaient été déclassées en réserve pour faire une présentation muséographique. Ce sont les anciennes salles Coypel, dans le château, pour
où présenter. Sont les cartons de tapisserie
où étaient exposés autrefois les cartons de tapisserie de Charles Coypel,
oui.
Que nous allons à nouveau exposer pendant à peu près un an en salle des gardes. D'accord. L'histoire de Don Quichotte.
D'accord. Mais pas, ça, par exemple, c'est quelque chose... Alors, on peut peut-être arriver justement aux musées eux-mêmes, enfin, aux œuvres eux-mêmes. On a parlé des meubles meublants, si j'ose dire. Donc ça, on a bien compris votre position, effectivement, qui est une position raisonnable de remeubler selon un état cohérent, mais ne pas se priver d'acquérir des œuvres, des meubles qui pourraient représenter l'histoire.
Et surtout, ne pas se priver de reconstituer des salles époque Napoléon III, quand, comme c'est le cas pour la salle du Conseil, nous avons en réserve, et nous trouvons aussi au Mobilier National, une partie, la plus grande partie du mobilier Napoléon III, et nous allons reconstituer la salle du Conseil époque Napoléon III.
D'accord.
Voilà. Donc, mais ça, c'est un programme sur plusieurs années.
Donc, parlons des tableaux. Alors, par exemple, les tableaux, justement, qui sont dans le parcours château. Donc, c'est l'histoire de Don Quichotte.
Alors, ils n'y sont plus. C'était les fameuses salles Coypel,
oui,
qui ont été déclassées avant mon arrivée en réserve, depuis très longtemps, et que je vais rouvrir. Mais pour y présenter non pas la totalité des peintures, la suite des cartons de tapisserie de Don Quichotte, mais pour présenter un ensemble, ce sera là aussi tournant, des ensembles que nous avons en réserve, et y compris des ensembles mobiliers que nous n'exposons pas.
Et alors ça pose le problème justement, donc c'est quoi appelle, vous avez exposé, vous m'avez dit, dans la salle...
Dans la salle des gardes, on va les exposer... On ouvre l'exposition pendant la nuit des musées,
oui,
et ça va rester à peu près un an.
Et après, qu'est-ce qu'ils deviendront ?
Ils repartent en réserve, parce que si on veut tout présenter,
je sais bien,
et décemment, nous avons, vous savez, à Compiègne, nous avons en réserve à peu près un musée de province. Par exemple, nous avons un ensemble de peintures hollandaises du XVIIe, qui n'a pas de grand chef-d'œuvre, qui sont de très belle qualité. Nous avons un fonds de peinture 19e, un fonds Second Empire, qui est très intéressant. Par exemple, nous avons, alors c'est ce qui me vient là à l'esprit, mais je pourrais citer beaucoup d'autres choses, on a quelques tableaux de Diaz qui sont très beaux. Nous avons des portraits, nous avons toutes sortes de choses. Donc l'idée, c'est de présenter, comme nous n'avons pas de salle pour présenter ça, et quand je parle des salles Coypel que nous allons rouvrir, ce ne sont jamais que deux salles. Donc on ne pourra de toute façon, on ne peut pas absorber dans le château la totalité de nos collections. Donc l'idée est de, justement, lorsque nous faisons une grande exposition comme Mérimée, nous réutilisons une partie de la muséographie pour présenter des collections, c'est ce que j'appelle les collections cachées, mais on l'a fait avec quantité d'autres choses. On a présenté les porcelaines,
oui,
il n'y a pas très longtemps.
Les traîneaux.
Actuellement, nous avons les traîneaux du musée de la voiture. Auparavant, nous avions les voitures d'enfants. Alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est que les voitures d'enfants, c'est une collection exceptionnelle. Alors, il y a le vis-à-vis du prince impérial qui est connu, mais sinon, on a sorti des réserves. Et lorsqu'on a installé ces voitures d'enfants dans la galerie de Bâle, j'ai dit à la conservatrice du musée de la voiture, Marianne Prival, je lui ai dit, regardez quand même quand est-ce qu'elles ont été exposées pour la dernière fois. Elle revient dans l'après-midi quand elle est en train d'installer, elle me dit, écoutez, j'ai regardé les fiches d'œuvres, je pense que ça n'a jamais été exposé. Et ce sont des pièces qui étaient rentrées au musée dans les années 20-30. On a des spécialistes de l'Europe entière qui sont venus les voir. Donc c'est l'idée est de faire comme ça, comme aujourd'hui, il faut renouveler sans arrêt. On est obligé d'avoir sans arrêt des expositions, sans quoi on est englouti par l'événementiel et on passe inaperçu. C'est une solution pour montrer nos collections et les faire vivre. On les restaure aussi. Par exemple, les traîneaux, on a investi des sommes considérables pour les restaurer avant la présentation.
Est-ce que justement, l'étage où il y a les chambres des invités, ce n'est pas un endroit où on pourrait présenter la collection, par exemple, de peintures nordiques? Ça pourrait faire des cabinets. Est-ce qu'à terme, ça ne serait pas des choses possibles pour les présenter de manière plus pérenne? Même si, effectivement, on pourrait y revenir. Vous n'avez pas, comme beaucoup, la plupart des châteaux-musées, vous n'avez pas le personnel nécessaire. Ça, c'est une question qui, malheureusement, n'est pas de votre
bien sûr, bien sûr.
Mais est-ce que c'est des choses qui seraient faisables?
Ah, ça serait tout à fait extraordinaire. Si vous voulez, on a la capacité d'extension. On a une capacité en place. On a une capacité d'extension du musée. Et en particulier, des petits cabinets.
On ne pourra pas mettre les Coypel dans les petits cabinets, dans les appartements.
Non.
Mais
non.
En revanche, on peut mettre des œuvres.
Oui, mais les Coypel, ils ont besoin d'un espace. Bon, ce sont, comme vous le savez, des cartons de tapisserie. Oui. Certaines œuvres ont été, donc, comme ce sont des documents de travail. Donc certains ont été extrêmement restaurés parce qu'ils étaient usés. La tapisserie de Don Quichotte, il y a eu plus d'une centaine de tissages. Donc nous en présenterons deux parce que nous en avons trois dans les collections. Et ils ont besoin de place. Il y a des Certaines peintures font plus de 2 mètres de large. Donc. Mais c'est vrai que nous avons capacité en place, beaucoup de collections très intéressantes. Malheureusement, après, la question, c'est celle des budgets, sachant que le château de Compiègne a été un peu, dès la Troisième République, celui qui a été délaissé, parce qu'il était lié à l'image du Second Empire. Vous savez, c'est Sedan, quoi. Donc, la malédiction, vous voyez, je pense toujours à ces fausses pièces qui ont été frappées après 1870 avec l'effigie de Napoléon III et traître en dessous. Donc la malédiction s'est poursuivie et c'est un château qui, pendant longtemps, a été négligé. D'où un état du bâtiment qui est quand même très critique par rapport, je ne parle pas de Versailles bien entendu, mais même par rapport à Fontainebleau.
Alors, avant de parler du musée du Second Empire et du musée de l'Impératrice, une petite digression sur ce que j'ai découvert aussi quand je suis venu vous voir il y a quelques temps, et j'ai fait un article à ce propos sur la base de données des collections, qui est beaucoup plus que cela. C'est un catalogue raisonné en ligne qui permet de découvrir les collections dont vous parliez. Ces peintres nordiques, par exemple, qu'on ne connaissait pas franchement, puisqu'ils ne sont pas exposés. Beaucoup de peintures du 19e siècle aussi qui ne sont pas exposées, qui sont souvent très intéressantes. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette base? Est-ce qu'elle est complète ou est-ce qu'elle a encore, des choses à... Est-ce qu'il faut rajouter des choses encore?
Oui. Alors, elle est complète pour tout ce qui est la partie peinture ancienne, la partie, le fond Second Empire. Il manque encore la partie des peintures. Alors là, vous allez être très surpris, des peintures des collections du musée de la voiture. Et nous en avons plus de 200. Puisque lorsque le musée a été constitué, il a une ambition totale, c'est-à-dire que c'est notre force par rapport aux autres musées conservant des voitures, aussi bien hippomobiles qu'automobiles, c'est que ces peintures ont été achetées au nom de l'iconographie. Voilà. Donc elles n'y sont pas encore, mais ça sera fait cette année, je pense. L'intérêt, c'est que c'est le premier catalogue raisonné publié en ligne par la RMN, à ma connaissance, de peinture. Et l'intérêt, c'est comme vous le dites, qu'on peut... Du coup, il y a des œuvres qui deviennent visibles et qui ne l'étaient pas. Ça a été aussi... Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut le réactualiser. On peut le faire à intervalles réguliers. Donc, il faut s'entendre avec la RMN, mais il y a des phases de réactualisation. Et par exemple, il y a des tableaux qui vont retrouver leur date et leur titre. L'année dernière, c'était encore... avec Laurent Chabanne, qui depuis a rejoint le musée d'Orsay. L'année dernière, nous avons restauré, pour placer dans la salle Carpeau, un extraordinaire tableau de Voïmo.
Je me rappelle, je l'ai vu.
Voilà.
J'essaierai de mettre, ce que je ne fais pas, mais il faudrait peut-être que je fasse plus, sur la page de l'émission, quelques photos des œuvres dont on parle, parce que ce serait plus parlant.
Oui, alors ce tableau-là, par exemple, il était répertorié au catalogue, et du coup, il a été publié comme ça dans la base de données, comme femme dansant, et en fait en le regardant je me suis aperçu que le sujet c'était la cigale, puisque c'est un grand nu un peu à la Burne Jones, qui frappe à une porte fermée avec les attributs de l'hiver, des feuilles qui volent, et elle a un petit tambour de basque à ses pieds, donc évidemment c'est la fable de La Fontaine. Et sur la base du Rijksmuseum d'Amsterdam, j'ai trouvé une reproduction du salon de 70. Voïmo, la cigale, bon, très bien, voilà une nouvelle identification qu'on va placer dans la base. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet, avec le Carpeau, les ruines des Tuileries et un tableau important du Salon de 70, ça fait écho, ça fait sens.
Et est-ce que vous pourriez, je ne sais pas si c'est le cas, mais dans les bases de données qu'on met à jour, la difficulté, c'est que quand vous mettez à jour, personne ne le sait, et finalement on oublie que c'était mis à jour et on ne se connaît pas la mise à jour. D'avoir des dernières mises à jour signalées, est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, je gère moi-même des bases de données, j'ai mis à jour des éléments sur la base de données, et je ne vais pas forcément signaler.
Honnêtement, je ne sais pas si techniquement on peut le faire. Ce qu'on peut faire en tout cas, c'est alerter sur notre site internet que la base de données a été mise à jour. Ça, on peut le faire. On peut lancer dans les actualités.
Mais c'est compliqué à faire, je suis
mais d'accord. Vous voulez dire signaler
par exemple, oui.
Moi, dans la base même.
Oui, par exemple, dans mes bases de données, des fois, j'ai signalé des précisions, par exemple, sur la destination de l'œuvre ou sur la datation de l'œuvre. Je le mets. Alors après, le jour où quelqu'un cherche cette œuvre, il verra ça. Mais ceux qui s'intéressent peut-être à l'œuvre, qui avaient vu l'ancienne fiche, ne le sauront pas.
Ce n'est pas signalé en tant que nouveau.
Voilà. Donc, c'est compliqué.
Ce qu'on peut faire, c'est honnêtement, techniquement, je suis vraiment pas expert, je sais pas vous répondre, mais
pas
oui,
techniquement, même
une espèce de point rouge qui,
voilà, c'est ça.
De point rouge avec
comme
une
ça,
date.
Comme ça, les gens qui reviendraient tous les six mois seraient, bah voilà, tout ça, ça a évolué.
Oui.
Même les œuvres supplémentaires, on ne sait pas qu'elles sont là, donc on va pas forcément les voir. Si vous les mettez, ça qui est un petit peu, mais c'est une difficulté des bases de données en ligne. Je ne prétends pas avoir la solution.
En tout cas, cette année, donc, nous aurons les 200 et quelques peintures du musée de la voiture. Et alors, je dis tout de suite, c'est pas des Géoham.
Par exemple,
il y a beaucoup de peintures 19e. C'est pas des auteurs très très connus, mais
à la Tribune de l'Art, on aime bien les auteurs pas connus.
Oui, aussi. oui, mais donc il y en avait une d'ailleurs qui était présentée à Mérimée. Ce sont des peintures qui sont plutôt intéressantes par leur iconographie, mais il y a des petits voilà, il y a des petites choses très intéressantes.
Alors donc maintenant les deux musées, donc il y a le musée du Second Empire. Vous parliez d'œuvres en réserve qui sont datent du Second Empire, elles pourraient éventuellement prendre place, mais c'est vrai que le musée a une surface qui est où d'ailleurs il y a le Voimau, il y a Carpeaux évidemment, Hugolin, il y a beaucoup d'œuvres. En deux mots, ce musée là, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez pas beaucoup touché à ce musée, en fait. C'est
pratiquement pas.
Il est dans un bon état, en fait.
Oui. Correct. Oui.
Mais il n'est pas toujours ouvert.
Alors là, nous avons donc un des grands problèmes du château de Compiègne, mais d'autres musées aussi. Parfois, c'est pas très simple d'aller voir les petits formats français 19e au Louvre. Hein.
C'est vrai. Non, bien sûr. Non, mais
voilà.
Je dis pas que
donc, en fait,
le Louvre n'est pas le musée où tout
voilà.
Les
heures, donc
les
c'est
un problème plus récurrent qui, je dois dire, devrait remonter. Enfin, c'est un vrai problème.
C'est
à
un
Versailles,
problème.
Il y a des salles entières de peinture qui sont fermées
voilà.
En permanence.
C'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous sommes obligés de n'ouvrir ces musées que certains jours de la semaine, en général l'après-midi. Enfin, on s'arrange pour faire en sorte que un visiteur qui vienne passer la journée puisse à peu près tout voir.
C'est déjà pas mal, parce que
c'est
pas le cas partout.
Mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Et de toute façon, on a beau dire aux visiteurs déçus, écoutez, c'est indiqué sur Internet. Bon, personnellement, je trouve qu'on devrait pouvoir venir au château de Compiègne sans regarder Internet, prendre son billet et tout voir. C'est très compliqué.
Et est-ce qu'il n'y a pas des solutions, je pense, en même temps que je parle quand on va à Compiègne ou dans tous les autres musées, dans toutes les salles, il n'y a pas des gardiens. Les gardiens sont répartis forcément. Mais avec une télésurveillance, est-ce que toutes les salles ont... Je suis frappé, on parlait du Louvre par exemple, je sais qu'il y a des salles au Louvre qui sont fermées, mais quand elles sont ouvertes, il n'y a pas plus de gardiens. Donc pourquoi les fermer quand il n'y a pas de gardiens?
Alors, c'est un sujet... Alors, vous mettez le doigt sur le sujet de la surveillance mobile, et nous avons créé un groupe de travail, et nous sommes en train d'essayer d'aménager système. Alors, malheureusement, ça ne peut pas se faire sans l'adjonction de quelques points de vidéosurveillance supplémentaires, ce qui dans un château est extrêmement délicat, puisqu'en fait quand on fait passer des câbles dans des boiseries 18e, c'est
oui,
toujours compliqué.
Je suis pas toujours d'accord non plus.
Et coûteux. Voilà. Donc, mais nous avons lancé depuis maintenant quelques mois un groupe de travail en interne, sur le passage à une surveillance mobile qui nous permettrait effectivement d'ouvrir plus. Sachant que, par exemple, quand vous êtes au musée du Second Empire, vous avez ce couloir qui ouvre sur les pièces, mais en fait, chaque pièce est... On a un rayon laser qui déclenche une alarme. Alors, c'est pas très agréable, mais...
Surtout si ça se déclenche tout le temps, ça sert plus à rien.
Voilà. Mais voilà. Donc, en tout cas, nous avons... ce problème crucial du manque d'effectifs, disons les choses comme elles sont, qui fait que, par exemple, en cas de maladie d'un certain nombre d'agents, si on a en hiver 2-3 agents qui sont malades, qui se déclarent malades le matin, eh bien, parfois ça nous conduit à fermer
des
salles ou voir un musée complet. Le musée de l'Impératrice.
Alors j'allais y venir, donc dites-moi un mot du musée de l'Impératrice que vous avez rouvert récemment.
Alors nous l'avons rouvert...
Il y a un article sur la Tribune de l'Art, je
voilà.
Vous rappelle.
Alors j'oublie toujours dans le passé les dates, mais je crois que c'est
toutes les dates sont dans l'article
l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est un musée qui était fermé depuis 7 ans, qui il y avait eu des travaux et Donc, nous avons reconstitué. Alors, c'est un musée particulier puisque il a été créé suite à un dépôt de médecin de Pierrefonds, le docteur Ferrand, qui était passionné du Second Empire, qui a réalisé une collection. Une collection plutôt orientée sur l'histoire et les objets intimes. Et cette collection, il a donné à la ville de Compiègne pour être déposée au château. Au fil du temps, la collection Ferrand représente à peu près maintenant la moitié du musée de l'impératrice. Et donc, j'ai pris le parti, avec Laure Chabanne, de rouvrir ce musée, de faire une restauration dans l'esprit d'un musée à l'ancienne et pittoresque. Je vous disais que je suis arlésien, j'ai toujours eu présent à l'esprit le Muséum d'Arlatan, que j'ai eu la chance de connaître encore enfant, vraiment dans l'état où Mistral l'avait constitué. Donc c'est l'idée d'un musée, c'est différent du musée du Second Empire, c'est un musée qui est évidemment tourné vers la personnalité de l'impératrice et vers l'intimité de la vie familiale. Donc on y trouve de tout. On y trouve aussi bien sûr, des tableaux et des sculptures, mais des objets, des vêtements. Il y a une salle sur le prince impérial. Donc l'idée, c'est que ce musée se trouve justement, il est dans des appartements, dans des anciens appartements d'invités, avec donc la structure classique.
Mais à l'étage inférieur, donc pas... Il y avait des appartements donc à cet étage-là, qui est l'étage noble, celui-ci.
Non.
Non.
Il est au-dessus.
Alors, je me repère mal dans le château.
Oui.
Donc, c'est au même niveau que les autres appartements d'invités ?
Oui.
D'accord.
Enfin, il y en a à deux étages.
Ah oui, c'est ça, voilà. Je pense la bibliothèque était à l'étage supérieur.
Oui.
Voilà, d'accord.
Mais donc, il est constitué de façon classique avec le couloir avec deux parties et d'autres, la partie salle de bain et la chambre de domestique, puis une grande pièce. Donc on a gardé évidemment cette structure, et dans les parties salle de bain et chambre de domestique, qui sont à peu près la taille de la pièce où nous nous trouvons, c'est une petite pièce d'un appartement, nous avons fait des loges qui sont... Il y a une porte vitrée et on peut voir une accumulation d'objets. Et d'une certaine manière, j'ai un peu pris le parti contraire de ce qu'on nous enseignait à l'école du Louvre avant le concours de conservateur. On nous disait, vous savez, c'était l'époque, il faut que ce soit net, il faut qu'on fasse un white cube.
Vous savez que je suis parfaitement en phase avec vous sur ça. Hein. Je me bats aussi contre les musées qui... Un mur, un tableau tout blanc, c'était épouvantable.
Pour moi aussi, mais bon, ça après, voilà. En tout cas, là, ça s'y prête parfaitement. Et j'ai dit à Laure Chabanne, c'est très simple, on va faire au fond le contraire de ce que j'entendais dire souvent à Michel Laclotte, c'est-à-dire on ne fait pas de pyramid rooms, on n'accumule pas, on tend vers la netteté. Là, au contraire, on tend
c'est pas vraiment
à la
rooms. C'est pas vraiment des pyramid rooms, ce sont des musées où les œuvres sont mises dans un contexte qui pourrait effectivement
oui,
être...
Ça
fait... Mais ce n'est pas vraiment une période room, parce que vous ne reconstituez pas quelque chose qui a existé. Vous...
Non.
Vous placez une atmosphère.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons à nouveau trouvé du papier peint qui est à nouveau fabriqué aujourd'hui d'après des modèles Second Empire. Nous avons largement interprété.
Les œuvres sont dans un contexte.
Voilà. Voilà.
Et ça, c'est plutôt bien.
Le but... Alors, évidemment, tout est détaillé et expliqué. Il y a des cartels qui détaillent tout, mais le but est que le visiteur soit avant tout charmé et ressente une émotion esthétique. De même, dans la salle consacrée au prince impérial, nous avons donné aux vestiges de ses vêtements, les vêtements qu'il portait lors de sa mort, toute l'ampleur qu'il méritait. Et nous avons aussi... En fin de parcours, c'est un tout petit musée, hein, c'est quelques salles. En fin de parcours, une salle qui correspond avec un accrochage renouvelé pour la présentation des collections d'art graphique. Donc, ils nous permettent de présenter les collections d'art graphique aussi bien du musée du Second Empire que du musée de l'Impératrice avec des thématiques. Donc, on a commencé avec une thématique Carpo, les portraits une salle entière avec les portraits de Napoléon III par Carpo. Pas beaucoup de musées qui peuvent faire ça. Et là, nous avons un accrochage sur le thème des séries, voilà, donc qui était en parallèle avec Mérimée.
Voilà. Donc, nous allons parler des deux musées d'œuvres d'art. Alors, les voitures sont aussi des œuvres d'art, oui, en partie. Oui,
il y a débat.
Voilà. Alors, parlez-nous du musée de la voiture. Moi, j'avais été en son temps assez partisan, mais vous m'avez dit que finalement, ça n'offrira pas plus de place. Donc, entendu, il y avait un projet d'installer le musée de la voiture dans les haras. Je ne sais pas ce que deviendront ces haras, parce que les haras sont quand même pas très loin du château. Et c'est un monument très important, très intéressant.
Même architecte.
Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. C'est une première question. Et deuxièmement, donc, vous dites que ce projet est abandonné pour des raisons, parce que finalement, il n'y a pas plus de place. Bon. Alors, comment voyez-vous le développement? Alors, vous avez restauré la cour. Enfin, en tout cas, la cour, elle n'est pas restaurée. En tout cas, il ne pleut plus.
Voilà.
Je me rappelle, j'avais fait un petit film. On voyait qu'il pleuvait. C'était dramatique.
Ça a été sécurisé.
Voilà. Donc là, et quels sont les projets donc, pour cette cour vitrée, cette cour couverte?
Oui.
Donc, vous avez dit avec raison qu'il fallait conserver la couverture Art déco. Comment vous avez parlé de la difficulté d'exposer des voitures. Donc, comment voyez-vous ce musée?
Alors, deux choses. La première question, ce que vont devenir les haras, je l'ignore. Les haras ont été acquis par la ville de Compiègne. C'est la ville de Compiègne qui développera un projet. Pour le musée. Alors, pourquoi la question du musée aux haras, brièvement, c'est un projet qui a été abandonné dès avant mon arrivée. Plusieurs raisons, parce que la première raison, je pense, c'était son coût. Et c'était également c'est un bâtiment qui était au fond guère adapté à la présentation de véhicules, notamment hippomobiles. Je ne sais pas si vous connaissez les haras de
Compiègne.
Voilà. Donc en fait, on était obligé de les avoir à la queue leu-leu les uns derrière les autres, à un couloir tout le long. Donc c'était pas très adapté. Surtout, alors là c'est mon point de vue personnel, je pense que la chance du château de Compiègne, c'est d'avoir le musée de la voiture. Pourquoi? Parce que le musée de la voiture, pour un public familial et populaire, c'est l'attrait majeur de ce château. Lorsqu'il était réellement ouvert, c'est-à-dire avant qu'on ferme la verrière, je rappelle que la verrière a été fermée pendant l'accès à la cour des cuisines sous verrière a été fermé pendant plus de 20 ans, le château enregistrait jusqu'à 300 000 visiteurs par an. Il était tombé à 85 000, nous avons franchi à nouveau la barre symbolique des 100 000 l'an dernier. Donc on a une augmentation régulière. Mais évidemment, c'est la visite du public familial et populaire local. Par le musée de la voiture, on peut amener ce public à connaître et à s'intéresser au reste. Mais évidemment, la voiture est quelque chose qui est très attrayant. La deuxième raison, il faut garder ce public-là. Deuxième raison, c'est que c'est le premier musée de la locomotion créé au monde. C'est en France qu'on a eu l'idée. Je ne vais pas faire l'historique de sa création, ça nous entraînera vers des développements trop longs. Et donc, je considère, on revient au début de notre entretien, que la création de ce musée, c'est un événement important sur le plan muséographique, sur le plan de l'histoire des idées et des musées, et aussi sur le plan architectural, puisqu'elle a valu cette magnifique verrière qui est donc due à l'architecte Marc Bitterlin, qui était un élève de Gaston Rodon, le frère d'Odilon.
Qui avait fait la salle des Rubens, qui n'existe plus au Louvre.
Qui malheureusement, enfin, à mon avis aussi, a été détruite parce que c'était une salle qui était vraiment extraordinaire. Et Gaston Rodon n'a pas eu beaucoup de chance, puisqu'en fait le casino de Royan a été détruit. La salle des Rubens a été détruite. Il reste la grande salle d'exposition du musée des arts décoratifs. Mais sinon, son œuvre est... Voilà. Donc, garder ce musée-là, en garder le maximum de muséographie ancienne, me paraît aussi quelque chose de très intéressant. Parce que d'une certaine manière, le musée de la voiture, c'est la première œuvre du musée de la voiture. Et donc, nous avons créé avec Marianne Privat quelques salles que j'appelle parfois les appartements témoins, où nous avons restauré entièrement. Nous avons restauré la salle des harnais avec ces harnais présentés.
Cette salle, oui, effectivement, très bien présentée.
Qui sont des objets d'art décoratif, absolument sublimes, somptueux. Nous avons restauré une salle qui est la grande rôtisserie, dans laquelle on a à la fois une peinture de Jacques-Émile Blanche, les débuts de la locomotion automobile à Paris, donc une salle très, très... Mais là aussi, la salle, j'ai restauré les couleurs Napoléon III dans cette rôtisserie, et non, on a implanté au sol une muséographie, une mise à distance très, 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 très moderne, avec des socles très modernes, qui, je pense, font leur effet. On voit très bien ce qui est rajouté. Donc l'idée, c'est de le conserver et de le développer en ouvrant aussi les collections au XXe siècle, de façon à retrouver ce public familial et populaire qui venait pour le musée de la voiture et qui revient d'ailleurs au château pour ces événements. On a vu lorsqu'on a des expositions de voitures, on a évidemment un très très bon succès. Concept Car a eu par exemple 38 000 visiteurs, ce qui à l'échelle de Paris n'est rien, mais qui pour Compiègne est un succès véritable. Alors nous avons donc, et nous en sommes à la phase d'avant-projet définitif, rendu le 7 avril par l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre Bortolussi, un APD pour une rénovation complète du musée de l'Avant-projet. Avant-projet définitif. Et nous aurons, avant l'été, un arbitrage ministériel dont j'espère qu'il sera positif, puisque c'est un musée auquel on a quasiment plus touché, à part des aménagements réalisés par Max Terrier, qui était de l'ordre vraiment de la muséographie dans les années 50-60.
Alors, pour terminer, nous allons parler des expositions. On a un petit peu abordé tout à l'heure et à l'instant même avec Concept Car et des acquisitions. Les expositions, alors c'est vrai que Concept Car sortait a priori de notre champ. Je ne sais pas, ça couvrait quelle période chronologique ?
1899 quasiment à nos jours, mais enfin je me suis arrêté dans les années 70.
Donc en fait 1899 et 1940, c'était plutôt, ça nous concernait, on ne l'a pas vu en tout cas. Mais vous avez fait récemment une exposition dont j'ai parlé, que j'ai beaucoup aimé, dont vous avez parlé il y a 5 minutes, pendant cette émission, l'exposition Prosper Mérimée. On comprend pourquoi Prosper Mérimée, parce qu'il venait aux séries de Compiègne, parce qu'il connaissait l'empereur, parce que c'est le Second Empire également. Alors c'est une exposition que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle était assez complète. Vous avez fait venir en particulier beaucoup d'œuvres d'art de plusieurs musées qui étaient au salon chroniqué par Mérimée. Je crois que vous avez dit que c'est une exposition qui a eu du succès.
Oui.
Et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi vous avez fait cette exposition et quelles sont les expositions de ce type que vous allez faire dans le futur ? Moi j'ai hâte d'en voir d'autres.
Alors pour le moment j'ai pas d'idée de programmation pour ce type d'exposition. Dans le futur, c'est assez complexe à faire. Donc, Prosper Mérimée, c'était 250 numéros, une variété d'objets extrêmes. Alors, pourquoi je l'ai faite ? Alors, c'est assez personnel. Moi, j'ai connu l'œuvre de Mérimée à partir de l'âge de 8 ou 9 ans. Mon père adorait Mérimée. Et j'ai passé une partie de mon enfance dans un village où se trouve un monument qui fait partie de la première liste de 1840, qui est Venasque, où il y a ce baptistère qui a été classé par Mérimée. Donc pour moi, c'était naturel. C'était vraiment une idée que j'avais en venant à Compiègne. C'était absolument naturel. D'ailleurs, je me suis étonné, mais tant mieux que ça n'ait pas été fait plus tôt, parce que c'est quelque chose d'évident. Je l'ai fait aussi en pensant à Bruno Foucart. Parce que la dernière section sur le salon, c'est peintures avec ces artistes finalement. Bon, certes, il y a de la croix, mais il n'y a pas Courbet, puisque le musée Fabre n'a pas pu nous prêter les grandes baigneuses du salon de 53. Mais il y a aussi Biard, Amaury Duval.
Il y a très beau tableau que je ne connaissais pas.
Hamon, voilà, donc il y a tous ces... Le grand Winterhalter, la Florinda du Met, très beau près du Métropolitain. Donc, c'est au fond faire remonter à la surface ce 19e relativement méconnu, dont on s'aperçoit d'ailleurs parce que beaucoup, enfin un nombre important de tableaux. Je ne citerai pas de musée, mais il y a eu un nombre important de tableaux qu'on a demandé, des tableaux exposés au salon de 1839 ou au salon de 1853, qui se trouvent en réserve dans des musées de province et que nous n'avons pas pu emprunter en raison des restaurations qu'il aurait fallu payer. Et cela montre que finalement, le musée d'Orsay est ouvert depuis déjà un certain temps, mais que ça n'a pas forcément entraîné partout une remise à l'heure des pendules.
Mais en plus, ce sont souvent des grands tableaux, malheureusement, donc ça prend de la place, et qu'il y a une question de place qui est vraiment un problème, mais qui devrait, j'espère... Voilà. Alors, il y a eu des musées qui, Amiens, a sorti des choses.
Oui, bien sûr.
Orléans a sorti des choses. Il faut sortir les œuvres des réserves et les restaurer. Et les montrer de temps en temps, au moins, parce que c'est quand même pour ça que les œuvres sont faites, sont dans les musées.
Voilà. Alors, ça s'imposait, c'est en même temps, il y a une question là aussi de budget. Donc, on peut faire ces grandes expositions seulement tous les deux ans, puisque nous avons, entre guillemets, droit à une exposition RMN, et donc avec une participation financière de la Réunion des musées nationaux que tous les deux ans. Et donc, la prochaine, ça nous transporte en
2026.
Et là, on est encore en travaux préparatoires.
Vous ne savez pas encore, parce que ça prend du temps quand même de préparer une telle exposition. Là, vous avez finalement...
Trois ans,
oui. Ouais. Donc, dans deux ans, c'est court. C'est moins de deux ans maintenant.
Oui, alors...
Vous avez des projets déjà en cours de réflexion.
Il y a des projets, mais si vous voulez, ça dépend de plusieurs choses. D'abord, l'arbitrage musée de la voiture. C'est-à-dire que c'est évident que si nous avons une réponse positive, ce que j'espère, pour le financement des travaux du musée de la voiture, il va falloir qu'on crée des systèmes d'annonce, et donc plutôt une exposition. Donc on a plusieurs projets sur le feu, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Alors nous avons aussi donc les expositions qui vont en parallèle ou à la suite, ce que j'ai appelé les trésors cachés.
Donc, un peu des expositions de dossiers autour de vos collections.
Voilà, là nous allons présenter donc la suite des cartons de tapisserie de Charles Coypel pour les tentures de Don Quichotte. Par la suite, nous allons avoir, donc là ce sera en 25, nous allons faire une exposition autour de l'Ugolin de Carpeaux et Dante. Et en parallèle, nous aurons une exposition d'un artiste italien, Alberto Martini, qui a travaillé toute sa vie sur un projet d'illustration d'une Divine Comédie. Projet qui
date de quand?
Martini, il commence à travailler en 1895 et il est mort en 54.
D'accord.
Et l'Italie va célébrer donc en 24. Pour donc le 70e anniversaire de sa mort, il y a à la fois la Pinacoteca Alberto Martini à Oderzo, le Castello...
Excusez-moi, 1954, vous dites l'anniversaire de...
Je me suis trompé.
Il est mort en 1924.
Dans ce non, cas-là. 54. 70 ans de sa mort.
Ah oui, c'est ça, pas le centenaire.
Non, 70 D'accord. ans. Et donc également Milan, Castello Sostresco, également le musée de Trévise, et la Biennale de Venise vont rendre un hommage à Martini, qui est un artiste assez ignoré hors d'Italie. Et donc, nous aurons une exposition sur le cycle dantesque de Martini en parallèle. Donc, c'est un artiste qu'on relie au symbolisme.
Vous avez des œuvres de lui, cela ?
Non. Oui, maintenant, on en a une. Oui, on a d'accord. une donation qui va... Je ne devrais pas le dire parce qu'elle va passer bientôt en commission d'acquisition.
Vous en parlerez, on fera un article.
Voilà.
Donc ça, c'était donc les expositions. Pour terminer maintenant, les acquisitions, votre politique d'acquisition, quelle est-elle ? Alors, on a parlé un peu pour les meubles, mais parlons maintenant des musées. Donc, le musée de la voiture, vous achetez régulièrement, j'ai vu dans la liste des acquisitions, des voitures du 19e siècle. C'est plus difficile de trouver, je pense, des voitures du 18e siècle.
Pratiquement pas, oui.
Des modèles également, ça c'est...
Oui. Donc, nous essayons... Alors... Soyons clairs sur la politique d'acquisition des véhicules. Enfin, on ne peut pas faire face au marché. Voilà. C'est-à-dire que les véhicules les plus prestigieux, je parle là des voitures automobiles, se vendent aujourd'hui à des prix... vous avez vu la croissance sur le marché.
Est-ce que c'est très grave pour un musée qui... Voilà, c'est pas très grave parce que c'est un musée qui est quand même un musée historique. Alors bien sûr, il y a des automobiles historique dans les années 30, 40, 50, 60.
Oui.
Mais finalement, vous ne pourrez jamais développer effectivement ce type de collection. Donc autant le faire peut-être sur des choses que vous pouvez
renforcer. On va pouvoir le faire parce qu'il y a un domaine qui est très intéressant, qui est celui de la grande carrosserie française de l'entre-deux-guerres. Et là, c'est un domaine pour lequel il y a moins d'amateurs. C'est-à-dire que les grands collectionneurs pour cette période arrivent à un âge... certains, et il y a moins d'engouement pour tous les grands canonciers, les Guilloré, les Saoutchik et autres de l'entre-deux-guerres, et pour les marques françaises. Or, c'est un domaine qui a été totalement délaissé par les frères Schlumpf, et donc c'est un domaine qui est très peu représenté à Mulhouse. Donc là, on a et également certaines voitures de compétition qui peuvent être des objets tout à fait exceptionnels. Et puis tout ce qui est évidemment prototype, concept car, ça a son intérêt. Mais c'est néanmoins, à chaque fois, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais donc nous, écoutez, c'est très simple. Pour les acquisitions, j'essaye d'être vraiment tous azimuts. C'est-à-dire de ne rien laisser de côté. Sur la question du remeublement, on en a parlé. Par ailleurs, pour le musée du Second Empire, il y a aussi la place à côté d'Orsay pour l'acquisition de certaines œuvres. Nous avons pu acquérir le tableau extraordinaire de Jean-Louis Hamon, Ma sœur n'y est pas, première acquisition de l'impératrice Eugénie.
Alors ça, je n'ai pas fait de brève là-dessus, mais nous allons le faire et je la mettrai dans l'article.
Voilà. Qui aurait pu tout aussi bien aller à Orsay. Donc là, évidemment, il y a une politique d'entente entre les musées nationaux, il n'y a aucun problème. Mais c'est un tableau à côté de Jérôme Hamon, et le grand peintre néo-grec. Et l'acquisition de ce tableau permet de mieux comprendre, puisque je rappelle qu'il était porté disparu, réputé, brûlé dans l'incendie des Tuileries. Et en fait, ce tableau, au moment de l'incendie des Tuileries, se trouvait dans l'hôtel particulier de l'impératrice, rue de l'Élysée. Et donc, il est réapparu sur le marché. Et immédiatement, nous avons pu, grâce à un mécénat de Chaumet et à l'apport de notre société des Amis du Château, nous avons pu en faire l'acquisition. Et également, Fonds du patrimoine. Mais là, ce sont des acquisitions. Vous voyez, déjà, quand on, c'est une acquisition très importante par rapport à notre budget. Donc, pour le musée de la voiture, nous restons fidèles à la politique des fondateurs, c'est-à-dire non seulement les véhicules, mais aussi des objets, tout ce qui permet d'illustrer l'activité liée à la voiture.
La locomotion, effectivement, parce qu'il y a des vélos également.
Il y a également du cycle, mais à la locomotion, sauf la locomotion ferroviaire. Nous avons l'exception du wagon de Napoléon III, ouais, qui est magnifique. Mais voilà. Et donc, nous avons, par exemple, nous avons pu acquérir une voiture qui était à l'exposition Vitesse, d'ailleurs, réputée. Elle n'est pas portée sur notre inventaire, c'est un dépôt, mais c'est une mécène américaine qui a pu acquérir cette voiture en vente publique pour nous. Donc on essaie quand même d'être, si vous voulez, aussi bien dans les collections 20e que les voitures hippomobiles. Mais il nous faudrait un budget.
Et de la place, parce que la difficulté, c'est la place quand même.
Nous avons des réserves. Nous avons créé deux réserves qui se trouvent donc à peu près 1000 mètres carrés de réserves, qui nous permettent justement de désengorger cette cour des cuisines qui petit à petit était devenue une réserve et d'avoir une présentation plus aérée. Dans le projet, de rénovation, il y a évidemment une restructuration complète de la cour avec une présentation, meilleur éclairage. On redonne vie réelle à la verrière qui a été, il faut le rappeler, badigeonnée en noir dans les années, on ne sait pas quand. C'est tellement criminel qu'on ne sait pas qui l'a fait. Et donc, on redonne vie à tout le matériel, puisqu'il y avait un système de store permettant d'occulter la lumière. On remet tout ça en jeu. Et il faut imaginer que ce sera, à ce moment-là, le plus beau, le plus bel emplacement au monde pour présenter des véhicules.
Et donc, la politique de tableaux d'œuvres d'art pour les deux musées, rapidement, est-ce que...
Alors, pour le musée de l'impératrice...
On a parlé voilà, effectivement de ce grand tableau. Voilà. Vous avez dit, donc ça c'est... Mais ça rentre dans la politique d'acheter des œuvres emblématiques du Second Empire.
Oui, bien sûr. Alors, nous avons à la fois musée de l'impératrice, c'est évidemment l'intimité des objets vraiment qui ont trait à la vie familiale du couple impérial. Le musée de l'impératrice, c'est un musée, je dirais, typiquement art et histoire, au sens où nous sommes ouverts à toutes sortes d'acquisitions, mobilier, art décoratif, peinture, sculpture. Mais évidemment, il faut que l'objet soit en liaison avec l'histoire du Second Empire. Le Hamon prenait sa place naturellement chez nous parce que c'est une acquisition de l'impératrice Eugénie.
Mais le Hamon n'est pas dans le musée de l'impératrice.
Second Empire.
Le musée du Second Empire. Ouais. Donc le Second Empire, ça doit forcément avoir un lien avec le couple impérial.
Si possible, oui. Si possible, parce que sinon, pourquoi ne pas revendiquer Manet ou Courbet? Vous voyez, ce que j'ai à ce moment-là, il faut éviter de faire double emploi avec le musée d'Orsay. Non, voilà, il faut que chacun soit... Mais bon, ça ne pose vraiment aucun problème, ça se passe en bonne intelligence.
Eh bien, merci pour cette heure passée avec nous et j'encourage tous les auditeurs et lecteurs de la Tribune de l'Art de visiter le château de Compiègne parce que finalement, c'est assez facile d'aller à Compiègne. Hein. Le train arrive en gare, après, il faut marcher un petit peu ou prendre un bus. Les bus sont gratuits à Compiègne. Oui. On monte dans un bus, il y en a beaucoup et on arrive pas très loin du château.
Oui.
Donc, c'est vraiment pas très compliqué.
Oui, et puis à pied, quand il fait beau, c'est 8 minutes.
Exactement. Quand il fait beau, effectivement.
Quand il pleut.
On espère que le beau temps va revenir. Mais en tout cas, quand il fait beau, c'est effectivement très agréable. On traverse... Le fleuve.
Voilà, on traverse l'Oise et puis...
Oui, l'Oise qui n'est pas un fleuve, qui est une rivière.
Au passage, on voit la superbe façade de l'hôtel de ville qui est de Viollet-le-Duc. Donc on est déjà dans une ambiance Second Empire.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et j'espère que nous allons continuer ce rythme de podcast hebdomadaire. Je ne le garantis pas, mais nous allons essayer en tout cas. Merci, à bientôt.
Merci.